des aventuriers
et aventurières engagées
de la Water Family.
Du minimalisme vient un grand bonheur.
L'épisode 1 avec Stan Turé, cinéaste et navigateur.
Alors, je m'appelle Stan Turé, j'ai 34 ans. Je me définis comme cinéaste-navigateur parce que j'ai travaillé dans le cinéma pendant longtemps et depuis 6 ans, je fais de la voile, je fais de la course au large et je suis skipper. La définition d'une aventure engagée, pour moi, c'est quand on va se mettre un peu dans le rouge. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais d'aller chercher à se dépasser, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan comment dire créatif, de se dire que on va chercher à toujours repousser ses limites en fait. Et repousser ses limites, ça pose aussi pas mal de questions, notamment de se dire aussi justement qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et quand on commence à se poser ces questions-là, bah rapidement vient la question du sens et pourquoi on fait des aventures. Et là, naturellement, oui, on arrive forcément à un moment à parler d'écologie, d'éco-responsabilité. Et pour moi, en tout cas, l'engagement que j'ai pris depuis quelques années, depuis que j'ai fait mes premières transats, il est de cette nature-là, de se dire que bah, voilà, je suis sensible à l'environnement dans lequel j'évolue, je suis sensible au sport que je pratique, à la nature du sport et à ce terrain de jeu qui est incroyable, qui est l'océan, mais aussi voilà, toute la nature en général. Et forcément, bah, ça donne envie de le protéger, ça donne envie de sensibiliser. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis hyper content d'être dans la Water Family et de pouvoir donner du sens à mon aventure, à voilà, effectivement, mes aventures sportives, les compétitions que l'on fait, mais même au quotidien, en fait, j'ai envie de dire que on peut tous avoir d'une certaine manière faire sa propre aventure engagée. Parce que même si on a envie de s'amuser, même si les choses qu'on fait là, de faire une transat par exemple comme la Jacques Vabre dans quelques jours, bah, n'importe qui peut pas tout de suite le faire. Moi je pense que n'importe qui peut le faire s'il en a envie, mais il n'est pas obligé de faire une Jacques Vabre, d'une traversée de l'Atlantique. Il peut très bien se dire ok, je peux déjà aller faire du bateau en bas de chez moi, je peux déjà prendre un kayak, je peux déjà ne serait-ce qu'aller courir ou traverser un endroit naturel en vélo ou en course à pied. Et c'est déjà une aventure engagée pour moi, ça. J'ai choisi la voile, alors je sais pas, j'y suis venu un peu tard en fait. C'est ça qui est marrant, c'est que en fait, j'ai quand même eu la chance de passer toutes mes vacances d'été avec mes parents en bord de mer. On allait toujours à peu près au même endroit en Bretagne. Et mon grand-père avait initié mon père à faire un peu de bateau, à faire du dériveur, et mon père m'a appris à faire du dériveur. Et donc j'ai passé mes étés avec mes sœurs, avec ma mère, avec mon père à faire du bateau. Mais c'était voilà, c'était un loisir et c'était juste trop sympa. Et je pense que les premiers moments où j'ai commencé à sentir des trucs un peu rigolos, c'est quand j'ai commencé un peu à prendre le bateau tout seul. Je pense quand j'avais 12-13 ans, de me dire ok bah allez laissez-moi le bateau et je vais pas très loin, mais déjà ce truc-là de dire ok là maintenant je suis tout seul, il y a que moi qui gère et si ouais c'est comme ça que j'ai voulu, enfin il s'est passé un truc le moment où j'ai commencé à aller voir un peu tout seul sur l'eau et de me dire ok là je suis responsable de mon propre destin et je peux faire ce que je veux et je suis libre. Et donc il y a ce sentiment de liberté qui est bah qu'on retrouve forcément, parce qu'à chaque fois qu'on parle de voilà d'océan, de mer, c'est les premiers mots qui viennent, c'est la liberté, c'est l'évasion, c'est le rêve, c'est on cherche toujours à se projeter, on se dit toujours qu'il y a un ailleurs qui est meilleur, qui est plus enviable de l'autre côté de l'océan, quoi. Quand tu commences à aller tout seul sur l'eau dès le départ, bah forcément à un moment tu te dis mais en fait est-ce que je fais pas une connerie. Et ce côté là en fait, c'est un truc qui est assez excitant. S'il n'y avait pas ce petit côté un peu prise de risque, un peu petit danger, bah, ça serait beaucoup plus chiant et ça serait pas pareil. Mais ce risque-là, en fait, on l'apprivoise. Et au début, oui, ça fait peur. Au début, oui, on se dit qu'on va peut-être se mettre en danger. Et on se met parfois en danger, mais d'une manière contrôlée. Et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et donc, en fait, au fur et à mesure de la progression, mais ça pour tout, hein, je faisais le parallèle la dernière fois, la première fois qu'on apprend à conduire, qu'on se retrouve sur une autoroute, c'est un truc de dingue. Et en fait, à un moment, bah, un an après, deux ans après, bah, ça devient normal de conduire à grande vitesse. Et bah, là, c'est pareil en mer, c'est pareil, j'imagine, en montagne. Ou, voilà, c'est une éducation qui se fait au fur et à mesure. Et après, on commence à... Voilà, on a un ressenti qui est... Voilà, on appelle ça le sens marin un peu. Et voilà, moi, j'ai eu la chance d'avoir des petites entrées avec ça quand j'étais petit, mais y en a qui l'ont eu beaucoup plus que moi, parce qu'ils font ça depuis encore plus longtemps. Donc la prise, gérer le risque, ça fait partie du job et ça fait partie aussi de l'excitation du truc, quoi. S'il n'y avait pas de risque, on ne ferait peut-être pas ça, parce qu'on fait ce sport-là justement pour se sentir vivant et être au contact des éléments, et on aime ça en fait. Voilà. Minimalisme ou confort, ce sont deux mots qui sont vraiment paradoxaux. Mais en fait, du minimalisme vient un grand bonheur en fait. Parce que quand on se met dans une situation où on a très peu de choses, et ben on doit se satisfaire des petits bonheurs. Et c'est ça qui fait d'ailleurs tout le charme de ces expéditions, de ces aventures, de ces courses, où on va se mettre un peu dans des situations où c'est pas confortable. Et oui, on a envie de retrouver une douche chaude, oui, on a envie de refaire un plat chaud, oui, on a envie d'être dans son canapé. Mais après, quand tu reviens chez toi et que tu retrouves du confort, eh ben, tu te dis « Ah, c'était bien quand même, on en a chié, mais c'était bien. » Donc c'est très paradoxal, mais je crois qu'on a besoin d'être privé de confort pour retrouver la vraie valeur de tout ce confort-là. Et oui, sur mon bateau, on a des petits équipements ça reste très très sommaire, mais on a un petit pouf à billes dans lequel on dort qui est très confortable. J'ai une petite couette qui va m'apporter beaucoup de chaleur. J'ai certains petits plats qui vont faire que c'est bien. Mais ça reste effectivement très précaire et on vit vraiment un peu comme des chiens. On va être mouillé, on va avoir froid et on va avoir chaud, ça va être compliqué. Mais ça fait partie du jeu et c'est ça qu'on aime bien aussi, c'est ça qu'on va chercher, je pense. C'est hyper compliqué ce sujet de se dire que oui, on aime notre métier, on aime notre sport, mais on se rend compte aussi qu'on n'est pas parfait dans notre pratique. Et en fait, c'est pas forcément possible d'être à 100% parfait, parce que la moindre action, dès que tu te lèves le matin, tu respires, tu fais des choses, tu t'équipes. Voilà, en tout cas, notre sport est un sport mécanique. Donc, j'ai forcément un bateau qui est construit, j'ai forcément de la logistique, j'ai forcément plein de choses autour. Mais pour autant, je suis convaincu qu'il faut que chacun, à son échelle, on essaye de changer nos pratiques de l'intérieur. Donc moi, j'essaye de changer les choses comme je peux, avec les petites actions que j'essaye de faire, mais c'est pas facile tous les jours. Et puis après, concrètement, oui, si ça peut, si les petites actions qu'on va faire sur le bateau, là, d'utiliser le désalinisateur, de montrer qu'on prend de l'eau du robinet, de montrer que on va prendre du shampoing et du savon solide, enfin, c'est des petits détails, c'est vraiment symbolique par rapport à tout ça. Mais le fait de montrer au grand public et aux gens qui vont nous suivre que à bord d'un bateau, justement, où c'est compliqué, où c'est dur, eh ben, on peut faire ces efforts-là et ça marche. Et ben peut-être qu'on peut aussi les faire à terre dans un environnement où justement on a le confort et la possibilité de faire un choix. Et donc en fait, c'est sûr qu'on essaye en fait de trouver un équilibre entre ce qu'on peut faire et ce qu'on... Voilà, d'essayer d'avoir en tout cas à chaque fois un horizon de croissance et d'essayer de croître vers quelque chose de plus vertueux. Et puis en parlant de courbe, essayer de se dire que parfois, bah oui, on a peut-être atteint la limite haute de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on peut faire techniquement, de la vitesse, de la performance, de tout ça. Et peut-être que se dire qu'on peut peut-être accepter de revoir un peu à la baisse nos exigences de tous les côtés, aussi bien dans la logistique que sur les performances du bateau, que sur plein de choses. Et donc tout ça, ça tend à trouver un équilibre. Mais c'est pas facile, mais on essaye. Moi, j'espère que j'inspire des gens et j'espère que d'autres personnes vont m'inspirer. Et tous ensemble, j'espère qu'on pourra aller vers quelque chose de plus harmonieux. Voilà. J'ai embarqué le low-tech lab à bord du bateau et la première réflexion qu'ils m'ont faite, c'était que le bateau était déjà super low-tech, parce que c'est vrai que le déplacement en lui-même, quand tu prends la définition du low-tech, c'est de faire avec le moins d'énergie possible, de faire des actions du quotidien. Et c'est vrai qu'en fait là, rien qu'avec le vent, s'il fallait quantifier l'énergie qu'on a besoin pour déplacer ce bateau là rien que cette action là est déjà très low-tech. Après, c'est sûr qu'à bord, on a des matériaux, ça reste hyper high-tech, mais dans une logique low-tech. Donc c'est ça, c'est encore paradoxal. Après, je ne suis pas convaincu, la direction que prend la course au large actuellement, pour l'instant, elle n'a pas de frein en fait. Allez, comme dans la société actuelle, il n'y a personne qui a réglementé, il n'y a personne qui essaye de faire en sorte que ça change. Il y a des mini-initiatives. Notamment avec La Vague, l'asso que j'ai cofondé, on essaye d'aller un peu poser des questions, un peu justement emmener les classes et les coureurs vers cette dynamique d'éco-responsabilité, mais c'est pas facile. Parce que voilà, on est dans un système et chaque système met du temps à changer, à évoluer. Est-ce qu'il faut qu'on aille vers une rupture totale de créer une nouvelle classe de bateau? Mais alors, si on crée une nouvelle classe, bah, c'est sûr que si on crée un nouveau modèle, bah, c'est pas non plus top parce qu'on repollue en reconstruisant plein de choses. On n'a pas envie non plus, je pense, de rester qu'avec les anciens vieux bateaux. En fait, il y a encore une fois une histoire de compromis et d'équilibre à trouver. Et je pense que les classes actuelles vont doucement glisser vers des choses positives. Et puis bah, peut-être qu'il va y avoir des événements. Moi, je suis plus convaincu qu'il va y avoir un moment, un événement qui va faire que, comme une course en fait, ou ça serait peut-être pas forcément une course, ça serait un rassemblement, un festival, je sais pas comment on pourrait dire, une initiative positive, mais dans laquelle, pour participer, il faudrait être un peu plus propre. Et ça, je pense plus que c'est comme ça que ça va se tourner. En tout cas, moi, ça me motive vachement. Ouais, la recherche de partenaires, de sponsoring, en fait, elle fait partie aussi du job de sportif engagé parce que les gens qui nous financent, qui nous aident à faire ce sport, c'est eux qui sont actifs, c'est eux qui sont aussi dans la vraie vie, c'est eux qui touchent le plus de monde. Et le fait aussi, tu vois, de se dire que nos démarches, nos petits gestes au quotidien sur le bateau peuvent inspirer, et ben les premières personnes qu'elles peuvent inspirer, ce sont les entreprises. Et ces personnes-là, c'est elles qui peuvent ensuite élargir le spectre, en fait. Et donc, moi, je suis convaincu que toutes ces démarches-là, toutes les entreprises vont devoir à un moment s'interroger aussi sur leurs pratiques en interne. Et c'est aussi notre rôle de les aider. Et je pense que, en tout cas, moi, j'ai eu un retour hyper favorable avec mon sponsor. Et je suis hyper content qu'il soit dans cette logique-là, même si lui non plus n'est pas parfait, mais il tend à le devenir. Et ensemble, bah, on avance ensemble et on essaye d'inspirer aussi. Tu vois, nous, j'essaye d'inspirer d'autres skippers, mais lui, en tant qu'entreprise, va forcément, via ses actions, inspirer d'autres entreprises. Donc, c'est une espèce de cercle vertueux qu'on essaye de mettre en place. Bah, moi, je suis passionné de montagne et c'est vrai que là, il y a un mouvement de fond qui est en train d'émerger. Parce que autant nous, les océans, on en parle depuis longtemps, de la pollution, des cétacés, des mouvements, de tout ça, autant la mais c'est pas perceptible par le grand public, autant en montagne, là, quand on voit la fonte des neiges, les stations qui sont moins enneigées, la fonte des glaciers, c'est quelque chose qui interroge vraiment au cœur toutes ces pratiques-là et tous les sportifs qui font ça au quotidien. Et ouais, il y a plein de gars, là j'ai pas tous les noms en tête, mais en tout cas on voit qu'il y a de plus en plus de films et d'aventures qui sont dans ce sens-là, et du côté de la montagne ça bouge pas mal. Voilà, c'est là où je trouve mon inspiration le plus souvent. Eh ben ça, la question du témoignage aux générations futures, elle est pas facile parce que je me rends bien compte que bah, j'ai un peu honte en fait. Je pense que dans 10, 15, 20 ans, tous les jeunes vont nous regarder en nous disant qu'on a fait un peu de la merde parce que nous déjà, nos parents, les générations futures n'ont pas su inverser la tendance. Donc je suis désolé. Je suis désolé et en fait c'est sûr que c'est pas terrible. Après on a forcément il va falloir s'adapter, il va falloir trouver des solutions et malheureusement la nature humaine attend en général que ça merde pour que ça change. Donc je pense que malheureusement c'est pas hyper optimiste ce que je dis. J'ai envie de porter un message d'optimisme en disant que oui, on peut faire des choses. Mais il va falloir à un moment agir plus fort et plus vite et ça passera forcément par des petites révolutions politiques qui sont plus que de juste simplement pisser sous la douche pour économiser une chasse d'eau quoi. Et ouais, voilà. C'est peut-être pas hyper optimiste comme fin, mais malheureusement je pense que les générations futures vont nous en vouloir un petit peu. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on... Faut pas qu'on lâche l'affaire, faut qu'on continue chacun à son échelle de se batailler, de changer et d'inspirer comme on peut. Dans 10 ans, j'ai aucune idée de là où je serai et j'ai pas envie de savoir. Si je le savais, je serais très déçu. Donc j'essaye de prendre toutes les opportunités que je peux. J'ai travaillé dans le cinéma, j'ai fait ce que je voulais. Un jour, j'ai rêvé de voile, maintenant je fais de la voile. Peut-être que j'aurai d'autres envies, je sais pas du tout. J'ai pas envie de savoir.
Retrouvez Stan sur ses différents réseaux dans la description de cet épisode.
Ce podcast a été produit par la Water Family, association d'éducation à l'écologie depuis 2008. Si l'épisode vous a plu, soutenez-nous en le notant sur votre plateforme d'écoute.